Voici le premier épisode de ma série de 5 podcasts consacrés à l'année 1961. Cette année-là, un jeune chanteur de 18 ans casse la baraque pour son premier Olympia. Il s'appelle Johnny Hallyday. Cette année-là, Poulidor triomphe. Oui, oui, Poupou gagne une course. Et enfin, tenez-vous bien, en 1961, un chien donne des cours de maths. C'est parti.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1961.
En 1961, un style musical débarque en France. Tout le monde en est dingue. Ah, le twist! Vous tapotez sur le volant, vous tortillez, vous avez la banane, ça fait du bien. Allez, encore une dose. En France, au début des années 60, cette chanson séduit les jeunes chanteurs qui lorgnent vers les États-Unis, comme Richard Anthony, comme Eddie Mitchell, comme Johnny Hallyday, qui enregistre d'ailleurs, Johnny, une version française à Londres, début septembre 61.
Venez les copains, tapez les mains, ouais, on va faire le twist, c'est le nouveau rock, rien n'y résiste, les n'étant pas, faites comme moi, tu vais bien même pas. Rythme le twist, ouais. Donne-moi la main là. Et tu t'y prends bien. Continue comme ça. Un tour autour de moi. Balance encore tes bras. Et bien sûr mon cœur. Et rythme le twist. Yeah. À tour de bien, oui. Yeah, entre tes bras, ouais, mon cœur va pour toi. Yeah.
Pour Johnny Hallyday, cette reprise en français, Viens danser le twist, est une consécration. C'est son premier gros tube, plus d'un million d'exemplaires vendus. Et du coup, ben, en 1961, son nom s'affiche pour la première fois en lettres rouges sur le fronton de l'Olympia.
J'ai 17 ans, je suis apprenti coiffeur. Quoi aimez-vous Johnny Hallyday?
Je sais pas, son dynamisme, si on veut, quoi.
J'ai 17 ans, bah, j'aime Johnny Hallyday parce que, pour vous dire, moi, j'aime en lui le dynamisme.
15 ans, je suis étudiante, enfin je vais à l'école, quoi. J'aime bien Johnny Hallyday parce qu'il est moderne, il est jeune, puis c'est de notre âge, quoi, c'est tout. Je vais rien vous dire de plus. Moi je l'aime parce que tout le monde l'aime, quoi, c'est tout.
Je trouve qu'il a du twist, il danse très bien, puis il chante aussi pas mal, il a très bonnes chansons.
Il danse bien, il chante bien, et il a beaucoup d'étudiants derrière lui.
J'ai 16 ans et demi.
Qu'est-ce que vous faites?
Je vais au lycée Voltaire. Non, j'aime beaucoup Johnny Hallyday, ses chansons, son physique, et il est très sympathique.
Pour ce concert de 1961, Europe numéro 1 suit le concert de Johnny en totale immersion, depuis les coulisses. Bruno Cocatrix, le patron de l'Olympia, n'est pas plus inquiet que ça, même si beaucoup de concerts de Johnny se sont terminés en bagarre générale, avec jet de fauteuil.
Eh bien, toujours l'Olympia, on se croirait au métro à 6h du soir, parce que ce soit dans la salle, dans les coulisses ou chez Johnny Hallyday, jamais j'ai vu autant de monde, des gens en smoking, des gens en remplisseurs, des photographes. Bruno Cocatrix garde en tout cela un calme olympien, c'est le cas de le dire, par jeu de mots, je suppose que ça a déjà été fait au Bruno Cocatrix. Vous avez l'air très calme, mais pourtant, cette soirée s'annonce mouvementée, je crois.
Oui, elle s'annonce mouvementée.
Vous le souhaitez, d'ailleurs.
Je le souhaite, évidemment, parce que si elle n'était pas mouvementée, vous savez que ce serait raté.
Et alors, quand on casse pas de chaise, au fond, vous n'êtes pas très content. important. Ah non, je crois pas qu'on soit obligé de passer les chaises, mais on peut s'agiter, on peut applaudir, on peut crier même, et sans pour ça passer les fauteuils. Dites-moi, il faut mettre éclaircir un point d'histoire, dire des chiffres exacts. On a dit qu'il y avait beaucoup d'agents en civil dans la Seine, d'autres en uniforme, cela on les a reconnus, mais alors, quelle est la vérité? Il y a beaucoup de commissaires en civil?
Ben non, il n'y en a pas tellement. Il y a des observateurs, des observateurs.
On les reconnaît, remarquez, à leur élégance particulière.
Non, ils sont beaucoup plus au point que vous ne croyez.
Personnellement, j'en ai reconnu quelques-uns. Enfin, là n'est pas la question. Mais dites-moi, vous ne souhaitez donc pas tellement qu'on casse les fauteuils aujourd'hui?
Non, d'ailleurs, je crois que ça devient démodé, les fauteuils cassés.
Juste avant de monter sur la scène de l'Olympien, Johnny accorde sa première grande interview. Pour Europe numéro 1, c'est un tout jeune journaliste qui l'interviewe. Il s'appelle Pierre Bouteiller. Il vient tout juste de remporter le concours des jeunes reporters d'Europe numéro 1. C'est déjà un journaliste incisif.
Johnny Hallyday, 18 ans. Quel est votre véritable nom ?
Jean-Philippe Smet.
Pourquoi avez-vous choisi ce surnom de Hallyday ?
Eh bien, tout simplement parce que avant moi, mon cousin et sa femme faisaient un numéro de danse. Et il s'appelait Léa Lidé.
Depuis combien de temps chantez-vous ?
2 ans.
Combien de temps êtes-vous professionnel ? 2 ans.
2 ans, oui.
Que faisiez-vous avant ?
Avant ? Eh bien, je prenais des cours de guitare, je faisais le conservatoire de guitare.
Qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? Quelle formation avez-vous ?
Eh bien, j'ai une formation très simple. J'étais à l'école, j'ai fait l'école primaire, c'est tout.
Vous avez du succès, vous avez beaucoup de succès, vous le savez, même un succès très rapide. Alors, selon vous, comment l'expliquez-vous ?
Je chante et ça plaît à certaines personnes.
Au cours de votre spectacle, vous êtes habillé d'une façon un peu excentrique, vous roulez par terre. Est-ce que vous en éprouvez le besoin ou est-ce un facteur de succès, un facteur commercial ?
Non, j'en éprouvais pas le besoin, c'était simplement... c'était naturel, quoi. C'était une chose pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, ça se faisait comme ça.
Que pensez-vous de votre public quand lui aussi se roule par terre, quand lui aussi se livre à des excès, quand les garçons se battent dans la salle, quand ils cassent les fauteuils, quand ils crèvent les pneus des voitures, bref, quand ils se livrent à certains excès? Est-ce que cela ne vous ennuie pas un peu?
Cela m'ennuie beaucoup et je déplore d'ailleurs ces incidents quand ça arrive parce que ça fait une très mauvaise publicité sur le rock. Et le rock, au fond, ce n'est qu'une musique de jeunes pour les jeunes et je crois que c'est absolument pas indispensable de se rouler par terre ou de casser les chaises.
Mais ne croyez-vous pas que vous y êtes pour quelque chose quand vous donnez l'exemple ?
Non, pas du tout, non. Je crois plutôt que les jeunes qui font ça, c'est plutôt des jeunes qui viennent dans la salle et qui... C'est prémédité, vous voyez.
Est-ce que vous aimez la musique classique ?
Beaucoup, oui.
Quel genre, par exemple ?
Eh bien, je fais la collection de disques tels que Bach, fugue d'orgue.
Vous avez ces disques chez vous ?
Oui, j'ai des disques.
Et vous les écoutez ?
Je les écoute très souvent même, tous les soirs.
Est-ce que vous croyez que ce que vous faites a une valeur musicale en soi ?
Oui.
Que comptez-vous faire plus tard, si la mode du rock passe ?
Je compte rester dans le métier d'artiste, enfin.
Mais comptez-vous évoluer en fonction de la mode ou continuerez-vous à faire
sûr,
du rock ?
Oui. D'ailleurs, je viens de faire un disque, justement, là, en Angleterre, où je chante avec des violons et des choses comme ça.
À part le rock'n'roll, à quoi vous intéressez-vous ? Au sport ? Quel jeu ?
Beaucoup
quel sport ?
Au sport, oui. Au rugby et aux courses de voiture.
Vous pratiquez vous-même ou vous aimez être spectateur ?
Non, je suis seulement spectateur.
Est-ce que la vie publique en général, la vie de la nation, la politique vous intéresse ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas un fervent de politique.
Vous savez quand même qui est Premier ministre ?
Oui, bien sûr.
Qui est-ce ?
C'est Michel Debré.
C'est Bruno Cacatrix qui répond à la place de Johnny Hallyday qui ne savait pas.
Il m'a eu.
Comptez-vous marier un jour ?
Plus tard.
Et vous comptez avoir des enfants ?
Comme tout le monde.
En attendant ce premier concert à l'Olympien, ça hurle, ça danse. Et en coulisses, le reporter d'Europe numéro 1 capte l'échange entre Cocatrix et Johnny au moment où la jeune vedette de 18 ans entre sur la scène.
Vous entendez les ordres ? On entend « Ok, on y va ». Voici Johnny Hallyday, il passe à côté de moi. Il a sa chemise de smoking pailleté noir, cravate rouge, pochette rouge. Il commence déjà à se remuer. Il est toujours dans la coulisse et l'orchestre Janin sont en train de jouer le morceau d'ouverture. Le rideau est toujours fermé. Pour l'instant, on l'embrasse. On l'embrasse encore sur les deux joues. J'entends le mot de Cambronne plusieurs fois, je ne sais pas si vous l'entendez, mais enfin, je peux vous assurer qu'il a été prononcé plusieurs fois aujourd'hui. Bah écoutez cette contrepartie. Tu vas les mordre, tu vas les tuer. Hein? Allez, allez. C'est Bruno Cacatrice qui vient de dire tu vas les mordre à génialité. De boire une dernière gorgée d'eau minérale en lui tendant son micro portatif. Pour l'instant il s'entraîne, vous l'entendez? Oh oui, 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 oui. Voilà, il est en train de.
Oui, c'est sûr.
Ça commence déjà à chauffer dans la salle, il n'est même pas encore en scène. Bruno Cacatrice, celui qui d'habitude est calme, commence déjà à sauter d'une jambe sur l'autre pendant que Johnny Hallyday fait ses vocalises.
Accompagné par le Golden String, voici Johnny Hallyday!
À l'Olympia, ce 21 septembre 1961, finalement aucun fauteuil cassé. Et dans le journal Le Monde, la jeune journaliste Claude Sarotte est conquise. Johnny joue de la guitare comme si c'était une mitraillette. Il manipule son micro comme il le ferait d'une queue de billard. C'est avec une certaine condescendance sceptique que je m'étais rendu à l'Olympia. J'en suis sorti sinon converti, du moins fortement impressionné par la vitalité de Johnny Hallyday. Ça alors, même le journal Le Monde s'emballe. Johnny ne s'y attendait sans doute pas. Alors ça donne quoi, Johnny à l'Olympia en 1961? Ah bien ça donne ça.
Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Yeah! Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Des départs dans le matin où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions pas de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir parce que mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains.
Souvenir, souvenir, Johnny Hallyday à l'Olympia en 1961.
1961, On de la raconte sur Europe 1.
Du 15 août au 15 septembre 1961 se déroule à Moscou, capitale de l'Union soviétique, l'exposition française. Qu'est-ce à coup ? Ah ben c'est une sorte de foire, une grosse opération de communication auprès des Russes. Dans deux pavillons de près de 20 000 mètres carrés, la France expose son savoir-faire industriel, son ingéniosité, mais aussi son art de vivre. Et donc les Russes viennent nous visiter comme des curiosités.
Vous voyez devant vous la maquette d'une usine de chlore, de soude caustique et d'hypochlorite de calcium que nous fournissons à l'URSS.
Quelle est la première question que l'on vous pose ?
Si cette usine est pour l'URSS ou non.
Un stand où l'on présente une machine à tisser. Quelle est la question que l'on vous pose le plus à votre stand ?
La vitesse des métiers. C'est une question de rendement.
Et le prix ?
Le prix, ça c'est une question qui paraît secondaire ici, parce que la première chose qu'on demande, c'est la vitesse. Dans ce domaine, je crois qu'ils n'ont pas encore fait de très grands progrès.
Dans un stand, on présente des voitures françaises. Madame, quelles sont les questions que l'on vous pose le plus?
Mais quel est le prix de la voiture? Et quel est le délai de la livraison? Ils trouvent que c'est moins cher. Et surtout, le délai de la livraison les étonne beaucoup. Parce qu'ils disent que chez eux, c'est beaucoup plus long.
Il faut attendre longtemps une voiture.
Oui, chez eux, plusieurs années encore.
Est-ce qu'ils trouvent ces voitures belles?
Oui. S'ils pouvaient, plusieurs m'ont dit, j'en achèterais tout de suite une.
Dans un stand, on présente des maquettes de maisons d'HLM. Ces maquettes intéressent tout particulièrement les Russes, qui se pressent autour des hôtesses et posent des questions.
Это как получается? Имеешь ли деньги?
Это так называемый список?
Очень очередность.
Да-да.
Combien faut-il attendre pour avoir une maison comme celle que vous nous faites voir? Est-ce que tous les ouvriers, est-ce que tout le monde peut en avoir, obtenir cet appartement? À quelques mètres de là, des stands tenus par les grandes maisons de parfumerie français.
Nous, on veut sentir nos parfums, on veut voir la différence entre les parfums soviétiques et les parfums français.
Et alors?
Eh bien, malheureusement, cette différence, nous ne pouvons pas la montrer, car la douane soviétique a saisi tout notre matériel de démonstration.
Les Français sont sollicités à tout moment par des moscovites qui demandent des laissez-passer. Les exposants, eux, sont contents. Les premiers contacts avec les centrales d'achat soviétiques sont satisfaisants. Ici, Jacques Ourevitch, qui vous a parlé de Moscou, Europe numéro 1.
En 1961, la France fanfaronne. Son exposition de Moscou est deux fois plus importante que celle organisée par les États-Unis il y a deux ans, en 59. C'est un succès.
1961, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1961, on part en vacances en Aronde, ou en deux chevaux, ou en Ami 6, et voilà ce qu'on écoute sur son autoradio.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the Road Jack, l'un des plus grands succès de Ray Charles.
L'année 1961.
D'accord, elle est plutôt nerveuse. Bon, ça va, Jeanne Belle, tiens bien la route. J'ai pas dit que c'était mal suspendu. Bon, d'accord. C'est confortable. Côté freinage. J'ai rien contre. Pour le coffre, ça peut aller. Bon, d'accord, c'est une voiture nerveuse, confortable, économique et sobre. Mais pour faire ce film, ils m'ont même pas fait cadeau de la voiture.
Pourquoi lui en faire cadeau? Il n'a qu'à en acheter une, puisque de toute façon, c'est une Renault qu'il lui faut.
À l'été 1961, les Français profitent des 30 Glorieuses. Depuis 5 ans, ils bénéficient d'une troisième semaine de congés payés. Alors début juillet, des hordes de Simca, d'Aronde, de deux chevaux, d'Ami 6 et d'Ami 8 filent vers le sud pour prendre du bon temps. Et au bonheur, les conseils de circulation d'Europe numéro 1 sont hyper pointus grâce à une nouveauté, le radioguidage depuis un hélicoptère.
Dragon appelle émail, Dragon appelle émail.
Il est 17h45, à 300 mètres d'altitude à bord de l'Alouette 2 de la protection civile. Lieutenant, comment trouvez-vous la circulation sur l'autoroute de l'Ouest?
Bien, voyez-vous, actuellement, la circulation s'effectue normalement. Cependant, remarquez les bouchons qui sont créés par des véhicules lents. En l'occurrence, il s'agit de deux véhicules poids lourds. Et les voitures légères qui se trouvent derrière hésitent à les dépasser. Nous voyons là très nettement environ 150 à 200 voitures qui créent un bouchon et qui circulent à 30 ou 40 km/h.
Je vous signale que sur le tronc commun, la circulation est dense. Avez-vous reçu, j'écoute. Arcueil Dragon vous appelle. Il est 17h55. Lieutenant, quelle est la situation sur l'autoroute du Sud?
La circulation est un peu moins dense que sur l'autoroute de l'Ouest. Nous ne voyons que des voitures de tourisme et nous ne remarquons pas les bouchons que nous avions vu tout à l'heure sur l'autoroute de l'Ouest. Actuellement, effectivement, tout est pour le mieux. Nous espérons que cela va continuer.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'accidents en accrochage cet après-midi?
Non, les accrochages ont été très peu nombreux, très peu nombreux.
En 1961, comme aujourd'hui, les départs en vacances sont un sujet très prisé des journalistes. Et à Europe numéro 1, c'est Christian Bernadac qui s'y colle. Et cette année-là, un sujet taraude ceux qui partent en vacances. Il paraît qu'on va limiter la vitesse sur les routes.
Vous partez en vacances, monsieur?
À moitié seulement, monsieur.
Vous partez dans quelle région?
Je suis obligé de me déplacer, je vais à Honfleur, pour affaire d'ailleurs. Mais je vais en profiter pour faire du tourisme.
Pour faire du tourisme, mais la limitation de vitesse ne vous fait pas peur, un peu?
Absolument pas, parce que conduisant depuis 30 ans, je vois trop de fous sur les routes. Je me limite à la route que je parcours, qui va être le parcours Paris-Évreux, et c'est une des routes les plus dangereuses de France maintenant.
Monsieur. Je m'en vais en montagne, oui.
Avec une grosse voiture.
Je roule très vite, il ne m'est jamais arrivé d'accident, du fait que je suis prudent, alors.
Et vous
je sais qu'il vaut mieux rouler, même on peut rouler très vite et puis être très prudent.
Vous êtes contre la...
Ah, je suis contre ça pour les voitures puissantes, oui, parce qu'il y a des voitures qui roulent pas, on peut pas dire très vite, moyennement, quoi, et qui sont très embêtantes sur la route.
Et vous avez l'impression d'être prudent pour vous et pour les autres à la fois?
Pour moi, personnellement, c'est plus dangereux.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7.
Et en 1961, la route commence à faire recette. Car le 1er juillet, on ouvre le premier péage autoroutier du pays.
Le chemin de la Côte d'Azur s'est raccourci par l'ouverture dans sa totalité de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur, qui est la première autoroute française à péage. Il convient de noter que sa construction, qui a duré 5 ans, a coûté 22 milliards d'anciens francs. Désormais, grâce à ses 63 km d'autoroute, on mettra pour ce parcours moitié moins de temps. Gain appréciable pour les vacanciers, pressés d'arriver à la mer. Et ils le sont toujours.
À cette époque, on promettait aux Français que ce péage ne devait durer qu'un temps, le temps d'amortir le coût des travaux. Mais oui, c'était soi-disant provisoire. Du coup, il y en a qui, pour faire des économies, rognent sur le budget réparation de leur voiture. Et pas sûr que ce soit la meilleure idée.
Vous êtes le dernier garage avant l'autoroute?
Avant l'autoroute, oui.
Est-ce que les automobilistes font tout ce qu'il faut avant de partir en vacances, toutes les vérifications nécessaires?
Non, j'en ai encore vu ce matin. J'ai vu un client qui est parti ce matin, il n'a pas de frein. Il cherche à faire réparer ses freins sur la route.
Sur la route, ouais. Mais pas avant de partir?
Pas avant de partir.
Quels sont les conseils que vous pouvez donner à un automobiliste?
On leur dit toujours, faites bien attention, soyez prudents sur la route et faites bien attention surtout aux freins.
Pendant ce temps-là, en Belgique, une idée prend corps, celle de la voiture sans chauffeur. Et ça marche. Hein.
En Belgique, l'invention obéit au souci du moindre effort et le siège se tend de lui-même au conducteur. Plus besoin de s'échiner à manœuvrer, la voiture se sort elle-même du stationnement par translation latérale. Mais ça n'est pas tout. Le coffre dissimule tout un appareillage sans aucun doute électronique. Et voici la voiture qu'on n'a plus besoin de se donner le mal de conduire, pour la raison très simple qu'elle se conduit toute seule. Encore un miracle du radar. L'antenne détecte les obstacles et les freins font le reste. La voiture sans chauffeur. Enfin.
L'année 1961.
Eh bien, c'est à vous maintenant, madame, que je vais m'adresser. Vous avez besoin de vêtements pour vos enfants, de lingerie pour vous, de chemises pour votre mari, d'imperméables pour toute la famille. Eh bien, tous ces articles, vous les choisirez en nylon Nîmes-France. Et vous les reconnaîtrez à leur étiquette numérotée Nîmes-France qui vous assure les qualités traditionnelles de nylon Nîmes-France. Vos tabliers, vous les choisirez en blouse Nîmes-France. Leur élégance vous plaira, leur coupe vous laissera le maximum d'aisance. Vite lavés, vite secs, ils se portent sans repassage et sont d'une solidité à toute épreuve. Seulement exigez bien l'étiquette numérotée Nîmes-France.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
Le 19 mars 1961, se déroule la prestigieuse course cycliste d'un jour, Milan-San Remo. C'est la plus longue de toutes les classiques. 288 km à travers les paysages de Lombardie. 214 coureurs au départ, dont les Français André Darrigade et Poulidor.
Un coureur apparaît maintenant au bout de la Via Roma. Est-ce Raymond Poulidor? Je ne pourrais pas le dire, il me semble. Et le peloton est tout près, juste derrière lui. Est-ce Poulidor? Est-ce un autre coureur? J'aperçois derrière une voiture d'un directeur technique. Il me semble que c'est celle d'Antonamagne. Donc il s'agit bien de Raymond Poulidor. Poulidor seul au bout de la Via Roma, poursuivi par tout le peloton. À la force de la voiture, Antonamagne lui fait des gestes en le poussant littéralement, en lui disant « Allez Raymond !» et qui zigzague sur la route d'ailleurs. Le peloton est sur ses trousses maintenant. Il y a environ 100 mètres d'écart entre Raymond Poulidor et le reste du peloton. Est-ce que Poulidor va réussir à l'emporter? Nous le souhaitons tous, oui. Poulidor va franchir la ligne d'arrivée. Premier Raymond Poulidor. Et le sprint du peloton qui est remporté par Van Luys devant De Cabotaire, Tombeck, etc. Formidable exploit de Raymond Poulidor qui est consacré aujourd'hui en routier international.
Louis-Jean Bobet, que pensez-vous de cette victoire de Raymond Poulidor?
Écoutez, je vais vous dire une chose. Hein, c'est un garçon sur lequel on disait qu'il n'aurait peut-être jamais gagné une course car il attaquait un peu à contre-temps ou trop loin et il ne savait pas finir ses épreuves. Il a prouvé qu'il pouvait également terminer les épreuves et je le remercie d'avoir souhaité à sa façon mon anniversaire car cela fait 10 ans aujourd'hui qu'avec Pierrot Barbotin, je pense que j'ai cette ligne à un vainqueur.
Raymond Poulidor, félicitations pour cette grande victoire. Ce matin, dans quel état d'esprit vous vous trouviez lorsque vous êtes parti?
J'avais le moral, quoi. J'étais bien rodé par Paris-Nice, mais franchement, je comptais vraiment pas de gagner Milan-San Remo. Mais j'ai une petite confidence, là, justement, j'ai failli abandonner ce matin. Peut-être personne ne sait, car j'ai crevé. M. Magne se trouvait très mal placé, il était la 21e voiture. Lorsqu'il m'a dépanné, il y avait déjà une minute et quelques que j'attendais au bord de la route. Je voulais abandonner. Si M. Magne n'avait pas été là, ben, j'abandonnais.
Dites-moi, je voudrais que vous vous présentiez un peu mieux. Quel âge avez-vous?
Eh bien, je vais avoir 25 ans le 15 avril, là, le mois prochain.
Vous courez depuis quand?
Il y a vraiment 4 ans quoi, que je cours vraiment en compétition. Je suis professionnel depuis un an. Quoi. Vous êtes parié? Non, pas encore.
Poulidor est devenu professionnel grâce à Antonin Magne. C'est lui qui l'a repéré dans des courses régionales du Massif Central.
Il y a 2 ans, il gagnait que des courses de pays. Un petit pays, c'est-à-dire des courses de passement, comme l'on dit chez nous. Et puis, il fallait qu'il apprenne son métier, il fallait qu'il apprenne la confiance, il fallait qu'il apprenne à se tenir dans un peloton, il fallait qu'il apprenne à gagner. Et aujourd'hui, eh bien, Raymond a gagné. Il a gagné avec une hargne, la hargne d'un champion, car pour gagner Milan-San Remo, eh bien, ça n'appartient vraiment qu'à un grand champion.
Raymond Poulidor, votre ambition maintenant, c'est d'en remporter d'autres. Ici, San Remo, Europe numéro 1.
Poupou en gagnera d'autres, hein, même si dans la légende, il sera toujours l'éternel deuxième. En 1961, Poulidor triomphe et Hugo Frey sort une chanson qui va faire le bonheur de tous les feux de camp pendant des décennies.
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Liceo Santillano.
18-400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot.
Tiens bon la vague et tiens bon.
Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Iseo, Santillano.
D'y penser, j'avais le cœur gros
en doublant les feux de Saint-Malo.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo,
Santillano.
Si prétend que là-bas l'argent coule à flot. Iseo,
Santillano,
on trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo,
Santillano,
si Dieu veut toujours droit devant.
Nous irons jusqu'à San Francisco.
Un jour je reviendrai chargé de cadeaux.
Iseo,
au pays, j'irai voir Marco.
À son doigt, je passerai l'anneau.
Tiens bon le cap et tiens bon le flot. Iseo,
Santillano,
sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco.
Hugo Frey, Santillano.
On de la raconte, Christophe Ondelatte.
Génie, la seule lessive sans bouillir, Génie va vous changer la vie. Et voilà pourquoi. Enchaîné que vous êtes à votre lessiveuse, vous vous donnez un mal de chien pour avoir du linge propre. Pitié pour vous. Faites donc votre lessive sans bouillir avec Génie. Et vous verrez, en deux fois moins de temps, avec deux fois moins de peine, avec Génie, vous aurez du linge plus que propre, du linge net, net, du linge qui ne s'abîme pas. Alors, adoptez Génie. Ça va vous changer la vie.
1961, on de la raconte sur Europe 1.
En 1961, une radio périphérique comme Europe numéro 1 se dote aussi de détendre ses auditeurs avec des sujets un peu légers. Le 13 janvier, un de nos anciens collègues a trouvé une petite histoire, un petit truc frais et gentil. Un merle siffleur, et qui siffle quoi ? La Marseillaise.
Mon neveu a trouvé ce merle par terre il y a 2 ou 3 ans. Il me l'a emmené et je l'ai nourri au camping et à la pâté. J'ai chanté le matin comme ça en faisant mon ménage. J'ai chanté la Marseillaise. Et quelques temps après, il a répété de lui-même. Il a à ce moment-là imité des cobayes que j'ai aussi dans la même pièce. Il a chanté la samba. Et un jour, comme j'ai un chien qui s'appelle Spirou, je l'appelais de moi-même, Spirou, de lui-même, il a sifflé dans la même intonation.
Vous le savez peut-être, à l'heure où je vous parle, j'ai un clébard à mes pieds. Il s'appelle Jaco et il assiste à toutes mes émissions. En novembre 1961, Pierre Bouteiller rapporte un document sonore exceptionnel, un chien savant qu'il a déniché en Angleterre.
Pendant 2 heures, un chien a enseigné l'arithmétique à 150 écoliers anglais âgés de 7 à 12 ans. Vous pouvez me croire, j'y étais. Ce professeur de maths a 18 mois, c'est un berger à poils dorés, il s'appelle Bingo. Et quand il a fait son entrée dans la salle de classe pour s'asseoir à la place du professeur, il a reçu un accueil comme n'en ont jamais reçu aucun professeur de maths, ni même un chef d'État quand il passe devant les enfants des écoles. Et là, au moins, c'était spontané. Écoutez-moi ça. Ensuite, la leçon a commencé. Les élèves ont appris les rudiments de l'arithmétique, c'est-à-dire les principales opérations. D'abord, l'addition et la soustraction. Pas besoin de tableau noir pour dire combien font 4 et 4. 8 aboiements suffisent. 4 et 4.
Fontaine.
Four fountain.
10 moins 4. Il paraît que Bingo répond également aux questions qu'on lui pose. C'est du moins ce que m'a affirmé son propriétaire, M. Marcus Détouche, dont vous avez pu d'ailleurs entendre la voix pendant les cours de maths. C'est simple. Un aboiement veut dire non, 2 aboiements veulent dire oui. Je n'ai pas pu résister au plaisir de lui poser moi aussi quelques questions. Bingo, est-ce que Brigitte Bardot est mariée? En France, nous sommes sous quelle république? Est-ce que les Français payent encore une vignette en 1961? Et est-ce une chose juste? Vous avez entendu. En plus, il répond intelligemment. Encore une chose à ajouter. Peut-être que Bingo est un excellent professeur de mathématiques, mais je pense qu'il pourrait faire en France, un excellent professeur de langues étrangères, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Bingo aboyait en anglais.
Allez, un petit Johnny pour la route. En 1961, Johnny Hallyday reprend le Tutti Frutti de Little Richard. Magnifique.
Well, well, a ba 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 loo ba ba la bing boom tutti frutti.
C'était Tutti Frutti de Johnny Hallyday en live exclusif en 1961 à l'Olympia. La suite de notre exploration de l'année 1961 dans le deuxième épisode d'On te la traconte une année.
Retrouvez On te la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.